Merci Christian Merlin et à la semaine prochaine. Le tropisme suisse du Gall, dont il nous racontait il y a 2 semaines comment il lui était venu, ne pouvait pas ne pas trouver un jour ou l'autre une belle traduction professionnelle, entendez, opératique. À 40 ans tout juste, le voici donc qui prend la tête du Grand Théâtre de Genève, où il passera 15 années, les plus belles de sa vie de directeur, dit-il lui-même. Mémoire d'opéra, Hugues Gall, 3e, les années bonheur. Teresa Berganza et Ruggero Raimondi dans cet extrait de Don Giovanni de Mozart. C'était en 1979 sous la direction de Laurine Mazel pour le film bien connu de Joseph Losey. Bonjour Hugues Gall.
Bonjour Lionel Esparza.
Ravi de vous retrouver pour une 3e émission à l'occasion de laquelle on va raconter votre vie, la suite de votre vie. Juste un mot sur ce qu'on vient d'entendre. C'est une sorte d'adieu à Rolf Liebermann qu'on faisait ici parce que le film de Joseph Losey, tout le monde le connaît. On peut pas dire que Liebermann était pris dans l'histoire, mais un tout petit peu quand même à l'origine de ce film.
Ben, Liebermann était absolument le directeur artistique du film. Il l'a fait avec Daniel Toscan du Plantier. C'est une idée qui leur était commune. Et c'était leur idée à tous les deux de confier cette grande affaire à Joseph Losey, qui était un ami et qui vivait à Paris. Et ils ont décidé, avec Joe Losey, de situer tout ce donjon dans l'ambiance de Venise, de la Vénétie, des palais palladiens, etc., commencer et de faire de ce film, je crois, le premier film d'opéra. Non pas qu'on n'ait pas filmé des opéras auparavant, mais c'est de la création qui passe pour être un monument du cinéma et pas seulement alors les gens se sont un peu offusqués de tout cela, mais en réalité je crois que c'est un chef-d'œuvre et ça a consacré Ruggero Raimondi dans ce rôle fétiche pour lui et pour tout le monde de Don Juan.
Lors des deux premiers épisodes de ces mémoires, Ugal, on a parlé de votre enfance, de vos années de formation, les premières années dans les cabinets ministériels, votre compagnonnage avec Rolf Liebermann dans les années 70. On en arrive là, 1980, vous avez 40 ans, il s'agit de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire commencer à prendre des responsabilités soi-même. Vous êtes nommé cette année-là, donc, directeur du Grand Théâtre de Genève. Comment s'est faite cette nomination?
De la façon la plus étonnante pour moi, j'étais donc l'adjoint de Liebermann. J'avais mon bureau de l'autre côté du couloir au Palais Garnier en 77, quelque part à la fin de l'année 77. Et il m'appelle, je traverse le couloir, il y avait dans son bureau deux messieurs que je ne connaissais pas. L'un était le maire de Genève, un type remarquable qui s'appelait Claude Ketterer, l'autre, un autre homme remarquable qui s'appelait Jean-Flavien Lalive, était président, lui, du Grand Théâtre de Genève, et il demandait à Liebermann, leur grand concitoyen, leur grand conseil, parce qu'il cherchait un successeur pour le directeur qui, jusque-là, faisait très bien son boulot, qui s'appelait Jean-Claude Ribert, et qui, auparavant, était à Nancy. Bon, on cherchait quelqu'un, Liebermann m'a appelé, et m'a dit, sans que je sache à qui s'adressait cette apostrophe, voilà, c'est lui. Alors bon, ça s'est pas fait aussi simplement, après quoi j'ai eu des rendez-vous, et j'ai été me présenter à l'ensemble des membres du conseil du conseil d'administration à Genève, ça s'appelle un conseil de fondation. On a fait affaire, donc j'ai été officiellement nommé en avril 78, 78 comme on dit à Genève, pour prendre mes fonctions en 80, voilà.
Ouais, vous avez dû voir une sorte de signe du destin là-dedans, parce que vous qui aviez passé tellement de votre jeunesse en Suisse, à Lausanne, retrouver le pays, Genève.
Alors le pays, oui. Lausanne, à 80 kilomètres de Genève, c'est vraiment un autre monde, oui. Une autre mentalité, même, j'allais dire, une autre langue. Et il y a une espèce de rivalité, comme ça existe, entre les métropoles provinciales françaises, entre Lausanne et Genève. Genève étant considérée par les Lausannois comme une ville arrogante, prétentieuse, parlant différemment, etc., etc. Bref, j'avais été élevé à Lausanne dans l'idée que les Genevois, il fallait surtout les éviter à tout prix. J'ai bien fait de pas suivre ce conseil quelques années plus tard. Et le fait pour moi d'avoir été tout de même élevé en Suisse, je pense compter dans la décision du conseil d'administration de confier les rênes de cette affaire. Cette affaire, c'était le Grand Théâtre de Genève, c'est l'objet le plus coûteux de la politique culturelle genevoise. Et je dois dire que la recommandation de Liebermann était fondamentale, mais enfin, le risque qu'ont pris les édiles, en me confiant à moi qui n'avais jamais rien dirigé, si c'était que j'avais été évidemment associé à la direction de l'opéra, mais enfin tout de même, je n'étais pas le patron, c'était un risque pour lequel je leur serais toujours reconnaissant. Après ça, ils m'ont gardé, c'était très bien, et je crois que ça s'est passé dans de bonnes conditions.
Ça s'est passé pendant 15 ans, en tout cas. Comment vous avez négocié avec les Genevois eux-mêmes? Parce qu'on sait très bien qu'il y a la démocratie suisse qui est à tous les étages, et que pour prendre une décision en Suisse, on dit toujours qu'il faut consulter 25 personnes. Est-ce que c'est vrai?
Alors, en l'occurrence, je ne sais pas, je crois pas qu'ils aient consulté quelqu'un d'autre que moi, mais moi, lorsque l'on m'a désigné pour être le candidat unique à ce fauteuil, j'ai vu l'ensemble des membres du conseil d'administration. Et à Genève, vous le rappelez, une ville éminemment démocratique, c'est-à-dire que tous les cantons suisses le sont, mais Genève particulièrement, tous les partis politiques sont représentés autour de la table. Il fallait faire bonne impression à la droite, à l'extrême droite. Il y avait à cette époque-là un parti qui ressemblerait plutôt à quelque chose comme le Front National aujourd'hui, qui s'appelait les Vigilants, qui était là pour être vigilant contre l'envahisseur français. Il y avait un parti du travail, c'est-à-dire le parti qui se recommandait du communisme. Il y avait des partis démocrates chrétiens. Il faut pas oublier qu'à Genève, qui est la pape du protestantisme, enfin bref, j'ai fait ce parcours du combattant, j'ai dû convaincre, et puis par la suite, ça a été pendant 15 années, ce parcours recommencé, la commission des finances pour l'approbation des comptes ou pour l'approbation du budget, la commission des beaux-arts avec souvent les mêmes. Enfin, Genève est une grande ville et en même temps, le cœur de Genève est tout petit, alors on se rencontrait, on prenait des verres au bistrot, enfin bref. Tout ce que j'avais appris avec Edgar Faure au ministère de l'Agriculture m'a beaucoup servi.
Oh, mon bel amant de la Péricole de Jacques Offenbach, chanté en 1981 par Teresa Berganza sous la direction de Michel Plasson.
Mémoire d'opéra, Lionel Esparza, France Musique.
Hugal, vous avez failli avoir Teresa Berganza en Péricole au Grand Théâtre de Genève, mais enfin bon, même si ça n'a pas marché pour cette affaire-là, vous êtes restée amie, c'est une chanteuse merveilleuse.
Oh, comment, hein. C'est une chanteuse admirable, c'est une femme remarquable, et j'ai pour elle de l'affection, de l'admiration, je la connais depuis longtemps, pas trop longtemps, mais c'est une artiste unique, unique.
Vous parlez de Jacques Offenbach en écoutant ceci. C'est un compositeur que vous avez très souvent représenté. Or, on n'associe pas, a priori, le personnage du Gall, très sérieux, excusez-moi, hein, à Jacques Offenbach.
On a tort. J'adore et j'admire beaucoup Jacques Offenbach. J'étais dans l'obligation, comme la plupart des directeurs de théâtre, d'organiser des spectacles qu'on appelait les spectacles de fin d'année. Souvent, ce sont des opérettes qu'on donne à Va comme je te pousse. Moi, j'avais l'intention de changer la donne et de donner Offenbach notamment, mais j'ai donné aussi le Cantori et d'autres spectacles joyeux pour les fêtes de fin d'année. Et j'ai donné Péricole, j'ai donné avec Jérôme Savary et l'extraordinaire Gabriel Baquet, un des artistes qui m'ont le plus marqué. Après, j'ai donné Barbe Bleue, qu'on ne donnait pas, qui est un opérateur. Le Voyage dans la Lune, une affaire considérable qui a failli me faire couler. Je me suis rendu compte, ayant mal calculé mon coût, pour parler un peu légèrement, que Le Voyage dans la Lune, c'était 750 costumes, 17 ou 18 scènes différentes, enfin une affaire du feu de Dieu, qui m'a coûté une fortune et que j'ai pu réaliser grâce à la collaboration, à la coopération, à la coproduction avec l'Opéra de Nantes. Et puis avec, je crois, Raymond Dufaux qui en a pris une part. Enfin bref, oui, j'ai beaucoup aimé Jacques Offenbach et grâce notamment à ma connivence, à la profonde amitié qui m'a lié pendant toutes ces années à Jérôme Savary, on a fait quelques folies, on a déridé Genève et on a, je crois que les Genevois qui passent à tort pour être un peu coincés, se sont beaucoup amusés au cancan de Jérôme.
Ouais. Des chanteurs sont venus à cette époque-là aussi au Grand Théâtre de Genève. Ils n'étaient pas débutants, mais enfin, ils n'avaient pas beaucoup vu sur les scènes. Samuel Ramé, René Fleming, Anne-Sophie von Hauteur, par exemple.
Oui, c'était des chanteurs, je n'ai jamais découvert personne, mais je me suis trouvé au début de la carrière d'un certain nombre de ceux que vous avez cités. Anne-Sophie von Hauteur, on me l'a signalé, elle était à Bâle, une chanteuse avec laquelle j'ai travaillé à Paris aussi très longtemps. Et puis René Fleming, qui un jour on m'a signalé, je voulais remonter un Così fan tutte d'une production que j'avais déjà donnée. Il manquait une Fior di Ligi, je téléphone à un impresario de New York, un de mes amis, d'ailleurs je gardais de bons rapports avec tous ces gens-là, sans lesquels je n'aurais pas beaucoup avancé, parce que ce sont les orpailleurs, ce sont ceux qui vous indiquent qu'il y a une pépite ici ou là, et l'un d'entre eux me dit, mais il y a eu à Milwaukee, ou que sais-je, une jeune chanteuse qui a gagné un concours, tu devrais l'entendre. Je la fais venir, c'était quelque part en 88 ou 9, ou que sais-je, et c'était René Fleming, elle est venue auditionner, elle le raconte d'ailleurs gentiment dans un certain nombre d'interviews. Et j'avais mon collaborateur chargé des distributions à côté de moi. Elle chantait, je dis, elle est formidable. Parce que, vous savez, quand on écoute un chanteur, il y a plusieurs solutions. Ou bien il est magnifique et on le reconnaît tout de suite, et c'était le cas. Ou bien il est nul et on le connaît tout de suite. Et au milieu, on peut se poser la question de savoir si tel ou tel rôle lui conviendrait, comment évoluera sa voix. Enfin, et j'étais là en train de converser avec Arnold Allons, qui était mon bras droit pour la chose. Et je lui disais, ben voilà, naturellement, Fiordiligi, bien sûr, et puis la comtesse, et puis pourquoi ne montrer pas Louise avec elle, enfin bref, et puis Rosalka, bref. Et après ces trois quarts d'heure d'audition, parce qu'elle continue à chanter, puisque moi je parlais, et je lui ai demandé de venir dans mon bureau, il était déjà assez tard, puisqu'on auditionnait lors du déjeuner, elle est dans mon bureau, et elle m'a dit, alors, si j'ai bien compris, ça je vous convient pas du tout. J'ai dit, pourquoi? Parce que vous parliez tout le temps. Je parlais tout le temps parce que je vais vous dire ce que j'ai envie de faire avec vous. Et de là, dater une collaboration magnifique, à Genève, évidemment, avec la comtesse, avec Fiordiligi, avec toutes sortes de choses. Et puis, malheureusement, pas Louise, ou heureusement, pas Louise pour elle, parce qu'elle a dû renoncer à Louise, parce qu'elle a, à ce moment-là, été la mère d'une petite fille, je crois. Et puis ensuite, à Paris, Rosalka, tout ce que j'ai pu lui donner, je lui ai donné. Elle avait la gentillesse, étant devenue entre-temps la star que vous savez, de garder pour l'Opéra de Paris, chaque année, un créneau de quelques semaines.
Oh,
Kundry cherchant à séduire Parsifal dans l'opéra de Richard Wagner et dans le film aussi de Hans-Jürgen Silberberg. On entendait ici Yvonne Minton dirigée par Armin Jordan. On est dans vos années suisses, là, en 1982. Hugal, j'ai choisi ceci pour deux noms. D'abord Yvonne Minton qui a été Kundry aussi chez vous sur les planches du Grand Théâtre de Genève et Armin Jordan avec lequel vous avez collaboré très naturellement grâce à l'Orchestre de la Suisse romande pendant des années.
Armin Jordan, quand je suis arrivé à Genève, était le directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, un très bon orchestre, et que j'ai souvent employé en complément des représentations servies par l'Orchestre Suisse Romande. Oui, Armin était un merveilleux musicien, c'est pas la peine de le rappeler ici. Ensuite, il est devenu le successeur de Hornstein, un magnifique wagnérien, un grand Kapellmeister, qui était directeur de l'Orchestre Suisse Romande au moment où je suis arrivé. Et il est resté donc très longtemps à la tête de l'Orchestre Suisse Romande. Il n'a pas dirigé ce Parsifal auquel vous faites allusion, c'était Hornstein, qui était un très considérable wagnérien, qui l'a fait dans la mise en scène de Liebermann, je crois que la seule mise en scène qu'il ait jamais accepté de faire, qui était passionnante. Mais au moment où j'ai pris les rênes de l'Opéra de Paris, j'avais prévu de donner une nouvelle version de Parsifal, non pas avec Yvonne Minton à ce moment-là, mais j'avais demandé à Hornstein, pour lequel j'avais beaucoup d'amitié et d'admiration, de diriger cette série-là. Il m'a fait savoir quelques mois auparavant qu'il était souffrant, qu'il ne pourrait pas venir. C'est Armin Jordan qui est venu faire ses représentations tout à fait mémorables. Et avec Armin, nous sommes restés amis jusqu'au moment où, malheureusement, il a disparu. Ça, si on peut dire, la famille Jordan continue et brillamment avec Philippe, que j'ai connu tout jeune et qui fait la carrière que vous savez.
Mémoire d'opéra, Lionel Esparza, France Musique.
Comme directeur d'opéra, quel lien vous entretenez avec les artistes, Hugal? Vous nous dites amis, etc. C'est des liens qui sont très proches parce qu'on sait que certains directeurs d'opéra préfèrent avoir de la distance avec ce que sont après tout des collaborateurs aussi.
Ça, il y a des nuances dans l'amitié. Il y a des artistes avec lesquels on croit avoir en tout cas des rapports d'amitié, de confiance qui se traduisent souvent par des services qu'on se rend. En tout cas, je me rappelle que un certain nombre de circonstances où l'amitié que voulait bien me porter un artiste comme Cappuccilli ou comme, m'ont sauvé de situations difficiles. Non, il y a des relations d'amitié. Il n'y a pas, enfin, pour ce qui me concerne, pas au-delà de l'amitié. Autrement dit, l'intimité, non. On est amis, on s'embrasse beaucoup dans ce métier. On se tape sur l'épaule, on se félicite, on s'aime. Et puis après, mon Dieu, la vie vous sépare, puis on se retrouve comme si on s'était pas quitté. Moi, je revois maintenant... Vous savez, avec Facebook, c'est très amusant. Je me suis mis à ce truc-là. Je converse avec Sam Ramey. Vous rappeliez que nous avions eu une très longue collaboration depuis ses débuts dans Chonard, ici à l'Opéra de Paris, dans les années 70, avec Pavarotti, etc. Et puis à Genève, où il a énormément chanté, où il a fait son premier Boris, beaucoup de représentations. Et puis maintenant, nous sommes vieillis sous le harnois et nous nous congratulons sur Facebook. C'est vrai aussi pour d'autres artistes. Vous savez que cet étrange système de Facebook vous annonce que ce jour-là, mademoiselle Roselyne Prowright, que vous avez découvert il y a maintenant 30 ans quelque part à Berne, fête je ne sais quel anniversaire, on lui dit comment ça va et on garde le contact. Donc, l'amitié peut-être pas, mais peut-être plus que de la connivence.
J'ai l'impression, Hugal, en vous entendant parler, que les 15 années genevoises étaient de belles années, que vous avez été heureux là-bas comme directeur.
Ah oui, j'ai été heureux, oui, ça, j'en étais parfaitement conscient. Les problèmes étaient des problèmes normaux, d'abord de convaincre chaque fois le public, comme c'est normal, les artistes, la qualité des moyens qu'on mettait à leur disposition, et puis naturellement les politiques qui votaient de façon très méticuleuse chaque ligne du budget. Pas que je disais, j'ai besoin de 50 ou 100 ou 200 000 francs suisses, il fallait que j'explique. Et je trouvais ça tout à fait normal, comme ça m'a toujours semblé fondamental de donner les raisons pour lesquelles on faisait les choses. Parfois, les gens ne comprennent pas. Pas demander à tous les inspecteurs des finances du ministère de Bercy de comprendre ce pourquoi on demande ceci. Mais après, quand la confiance est installée, ils vous laissent faire. Non, oui, les 15 années de Genève sont des années où j'ai été heureux. Pour la bonne raison que j'avais le sentiment d'abord de continuer à apprendre mon métier, j'ai continué à l'apprendre très longtemps, de faire ce métier pour les raisons qui m'avaient amené à souhaiter le faire, c'est-à-dire composer un plateau, avoir une idée de la pièce ou de l'opéra qu'on voulait donner, choisir le metteur en scène, enfin être un peu le fleuriste de cette affaire, et puis ensuite veiller à ce que tout se passe bien. Et sans être encombré, comme on sait qu'on peut l'être à Paris plus qu'ailleurs, avec les problèmes de ce qu'on appelle drôlement ici le dialogue social, qui souvent ressemble à un dialogue que moi je ressemble à Salomé. Et à Genève, les problèmes se réglaient dans la bonne foi. Ce qui m'a manqué le plus à Paris par la suite, c'était l'idée de la méfiance réciproque, d'ailleurs qui n'est pas seulement due à la tactique de certains représentants ou syndiqués. C'est le fait que l'État lui-même, souvent de mauvaise foi, je comprends très bien que ce soit né entre des institutions comme l'Opéra et l'État et le gouvernement des malentendus qui perdurent et qui créent les conditions de cette méfiance et de ces crispations. À Genève, il n'y avait pas de ça. On se mettait autour de la table et comme on dit dans certains... En Suisse, on sait que la barque parfois est pleine, et il ne faut pas la charger. Et donc, les éventuels problèmes de gestion de personnel ou de gestion financière se réglaient dans la bonne foi réciproque. Ça, c'était fondamental. Et puis, pour le reste, eh bien, je veillais naturellement à faire mon métier. Mon métier, c'était quoi? C'était d'être directeur artistique. Tout le monde veut croire que être directeur d'opéra, notamment quand je l'étais à l'Opéra de Paris, au fond, quelqu'un d'autre devait faire ses distributions et quelqu'un d'autre devait choisir les pièces. Je revendique la responsabilité des succès et des fours, il y en a eu quelques-uns pendant les 9 années de ma gestion à Paris. Et personne d'autre que moi n'est responsable de ce qui s'est passé en bien ou en mal.
Vous me tendez la perche parisienne depuis quelques minutes, Hugues Gall. On va la saisir. C'était Julia Varadi qu'on entendait ici dans cet extrait de Nabucco, production de septembre 1995 à l'Opéra de Paris, à la Bastille donc, mise en scène Robert Carsen, c'était Pinchas Steinberg qui dirigeait, il y avait beaucoup de beaux mondes dans la distribution, Jean-Philippe Lafont, José Coura, Violetta Urmana, Samuel Ramé aussi. Hugues, c'était votre premier spectacle là en 95, l'acte d'arrivée en fait à l'Opéra de Paris. Hein.
Oui, j'avais décidé d'ouvrir cette saison par un ouvrage populaire, en tout cas dont les airs signifient quelque chose. J'avais la chance d'avoir à ma disposition non seulement Sam Ramé, mais surtout, je dis surtout, Julia Varadi, qui était une interprète extraordinaire et qu'on n'avait pas beaucoup vue à Paris, si ce n'est dans tous les spectacles que Daniel Barenboim avait donné au Théâtre des Champs-Élysées, tous les Mozart avec Ponel, elle était une habituée. Et elle était venue, elle a chanté, je crois que c'est une des dernières représentations qu'elle a chanté. C'était touchant, c'est que dans la salle, il y avait Fischer Dieskau, son mari, et il y avait ce spectacle. Et vous me dites, Violetta Urmana, ben on la découvrait, elle est devenue la chanteuse qu'on sait. José Coura, c'était la première fois qu'on l'entendait ici, il a fait la carrière. Enfin, j'étais très content d'avoir associé à des stars, c'était le cas de Varadi et de Sam Ramé, des chanteurs qui devaient devenir très rapidement, eux aussi ou elles aussi, des stars.
On va parler dans quelques minutes, Hugues, de votre nomination à l'Opéra de Paris et puis des premières années que vous y avez passées. Mais auparavant, entre 80 et 95, c'est-à-dire la période où vous êtes à Genève, il se passe beaucoup de choses à Paris et autour de son opéra. C'est évidemment le moment de la décision et puis de la construction et puis de l'ouverture de l'Opéra Bastille. Comment vous voyez cette époque et l'espèce de maelstrom à la fois politique et lyrique qu'a été cette période?
Je voyais de loin ce remue-ménage français, non pas que je ne me sois pas senti concerné, mais enfin, le lancement de l'idée d'un opéra Bastille m'avait semblé pas indispensable, et je dois dire que je me suis trompé. Que le fait pour le président Mitterrand d'avoir approuvé ce grand projet a donné à l'Opéra de Paris un nouveau souffle, a donné au ballet de l'opéra l'occasion de se produire de façon satisfaisante, et le choix de la place de la Bastille a été déterminant. Vous savez peut-être qu'à un moment donné, il était question, une fois la décision prise de construire un nouvel opéra, de le mettre au quai André Citroën ou quelque part à la Villette, etc. Et finalement, la gare de la Bastille, qui est située exactement là où se situait le fameux éléphant dont Victor Hugo parle dans Les Misérables, cette gare de la Bastille devait être démolie, ça donnait un espace très contraint, mais enfin bon, et le fait pour l'Opéra de Paris d'avoir cette salle si proche, pour moi l'avantage c'était non seulement qu'il était dans Paris, parce que la Bastille est un lieu bien important, mais si proche de la gare de Lyon, pas très loin des gares périphériques, me permettait d'imaginer une politique un peu plus ouverte sur la nation, pour parler de sa façon un peu pompeuse, puisque, comme vous le savez sans doute, l'Opéra National de Paris est national parce qu'il n'est subventionné que par la nation. La ville de Paris donne pas un copec, pas davantage que la région. Et évidemment, c'était une utopie que de vouloir rapprocher l'Opéra de Paris de Lyon ou de Lille ou de Tourcoing, mais enfin, d'une certaine façon, par la programmation et surtout les horaires des spectacles pendant les week-ends, j'essayais de répondre imparfaitement à cette question. Bon, alors, oui, toutes ces années-là ont été, pour ce qui concerne l'écho qui en arrivait jusque ces lointains pays qui étaient la Suisse ou l'Allemagne, des aléas, la construction, du choix du projet, du cahier des charges. J'ai vu tout ça, je voyais arriver cet objet avec un peu de crainte, parce que je voyais pas très bien comment ça allait fonctionner. Mais enfin bref, et puis à plusieurs reprises, comme vous le savez peut-être, les ministres successifs de la Culture m'avaient approché pour me demander si jamais je me sentais prêt à assumer la naissance de cette affaire, et je me suis récusé.
Pour quelle raison d'ailleurs?
Pour des raisons qui tenaient d'abord que j'étais extrêmement heureux à Genève, que j'étais au centre du monde musical européen, que j'y avais des éléments de travail tout à fait remarquables, que je n'avais pas oublié quelles qu'étaient les joies que j'ai pu éprouver aux côtés de Lieberman dans les années 70, les problèmes des rapports avec la bureaucratie, les rapports contrastés, le moins qu'on puisse dire, avec les syndicats, tout ça n'existant pas à Genève, je trouvais aucune raison de quitter le paradis pour aller dans un enfer quelque prestigieux qu'il fût. Bon, alors, et puis d'autre part, je n'avais pas du tout envie, et puis j'étais un peu dans la situation de celui qui dit, père, éloignez de moi cette cette coupe. Oui, je savais bien quelque part qu'elle reviendrait, mais enfin bon. Et j'avais pas l'intention de revenir à Paris. Je l'ai dit à plusieurs reprises, j'étais sincère. En réalité, au bout d'un certain nombre d'années genevoises, mon ambition, mon snobisme m'aurait porté peut-être à vouloir diriger un opéra en Allemagne ou à Londres. Et puis Dieu soit loué, ça n'est pas arrivé, parce que j'aurais probablement pas réussi à m'adapter à un climat si différent. Non, le seul opéra auquel on m'a jamais essayé de m'associer, celui que j'aurais voulu diriger et auquel je devais beaucoup, pour être allé beaucoup dans ma jeunesse pendant les vacances, c'était l'Opéra de Munich, qui reste pour moi un des meilleurs théâtres d'Europe, sinon le meilleur aujourd'hui.
Carrozza, presto, segui la dovunque vada, non visto, provvedi.
Sta bene, il convegno.
Palazzo Farnese. Sannina Scarbia. Qua tosca. E Scarbia pesa il falco della tua gelosia. Promessa nel tuo pranzo sospetto. Nel tuo cuore sanni la scarpia. La tosca. Capo del
Le final du premier acte de Tosca de Puccini, dirigé en 1995 avec toutes les forces de l'Opéra de Paris par Seiji Ozawa, choisi ceci aussi pour le chef, ce chef-là en particulier. On faisait tout à l'heure le panel de la relativité des amitiés dans le monde de l'art lyrique. Vous le mettez où, lui, Ozawa, Ugal?
Très près du cœur. C'est un artiste unique, mais c'est un homme exceptionnel. Et je crois avoir encore avec lui des relations privilégié, mais je pense que tout le monde pense avoir avec lui, et c'est justice, des relations affectives. C'est un grand affectif et un homme très remarquable.
Tant qu'on est du côté des chefs d'orchestre, vous en avez évidemment rencontré des kilos, on va pas faire la liste, Ugal, mais je savais pas, pour Herbert von Karajan, j'ai vu que vous étiez rencontré quelque part et que vous avez même fait une proposition.
Oh, écoutez, vous usez d'une indiscrétion que je vous ai livrée, mais c'est la vérité. J'étais à Genève. Karajan avait été à l'origine de la reconstruction du Grand Théâtre de Genève, dont il avait voulu faire, bien avant le grand projet de Salzbourg et du Grosses Festspielhaus, il avait imaginé faire de Genève sa base et le lieu de ce festival. Alors, ça ne s'est pas fait, mais enfin, il connaissait bien Genève, et quand j'ai été à la situation de pouvoir l'accueillir avec son orchestre, bien sûr, il n'est pas venu diriger l'orchestre d'enregistrement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il est venu à plusieurs reprises avec le Philharmonique de Berlin, nous avons passé des moments agréables, sympathiques, en tout cas de sympathie, je cru le percevoir comme ça, et un jour, en sortant de scène, il m'a dit, en français, parce qu'il parlait bien français avec un fort accent, comme vous le savez, il m'a dit, monsieur Gall, vous voulez l'opéra de Hambourg? Pourquoi? T'es un peu surpris. Je dis, pourquoi ça? Oui. Écoutez, dites-le-moi, parce que voilà. Alors, on savait que, étant à Hambourg tout puissant, comme il était beaucoup, mais surtout grâce à la Deutsche Grammophon, alors je lui ai dit, écoutez, merci, laissez-moi réfléchir. À ce moment-là, quelques jours plus tard, son collaborateur me dit, alors le maître s'impatiente, est-ce que vous voulez Hambourg? Je lui ai dit non.
Ugal, je voulais qu'on revienne quand même à votre nomination à l'Opéra de Paris, ou peut-être aux années qui ont précédé, les années qui sont dominées, on peut dire, par Pierre Berger, qui avait été nommé par François Mitterrand comme président du conseil d'administration de l'Opéra de Paris, et donc une sorte de rôle un peu bizarre, qui était exécutif sans lettre. Vous avez voulu, en arrivant, et ça a été la condition quand on est venu vous chercher à nouveau, et vous avez fini par dire oui en 1995, vous avez exigé donc, et ça semble secondaire, mais c'est très fondamental, un changement dans l'organisation de l'Opéra de Paris pour pouvoir, d'une certaine manière, le diriger correctement.
Pierre Berger avait été nommé en 88 président de l'Opéra de Paris, avec un statut qui avait été modifié pour lui et qui lui donnait pratiquement tous les pouvoirs. Mais ce statut était bancal parce qu'il créait à l'intérieur même de ce pouvoir absolu de Pierre Berger des niches. Il y avait le directeur musical, dont on sait qu'il a été finalement Myung-Chung, un directeur de la musique, et puis deux administrateurs, un administrateur pour le Palais Garnier, qui était dévolu à la danse dans cette conception des choses. Ça a été d'abord Jean-Albert Cartier, puis Brigitte Lefebvre, et puis un administrateur de l'Opéra Bassi, qui était le lieu du lyrique, dont Georges Hirsch, puis Jean-Marie Blanchard ont été les responsables. Et moi, j'arrivais dans cette affaire et je ne voyais pas du tout, me mettant d'accord avec tous ces gens-là, quelles qu'aient été leurs qualités, je voulais mon équipe et je voulais... Donc j'ai obtenu et rédigé les principes d'un nouveau statut qui était approuvé en 93-94, juste après ma nomination par Jacques Toubon et avec l'accord du président Mitterrand. Les mandats de Pierre Berger venant à échéance en février 94, j'ai pu donc mettre en place mon équipe, et donc je ne me voyais pas être autre chose que ce que j'avais été à Genève, quittant, je ne dirais pas le paradis, mais tout de même quelque chose qui me convenait bien, me retrouver avec des problèmes dont je mesurais les difficultés, et avec en plus un organigramme qui m'aurait mis dans les pattes un certain nombre de gens qui auraient revendiqué une certaine autonomie. Moi, je pense, comme beaucoup de gens, que le pouvoir... ne se partage pas, qu'il se délègue, ce que j'ai fait. J'ai très bien travaillé avec Brigitte Lefebvre, avec James Conlon, avec tous ceux qui m'ont accompagné pendant toutes ces années. Mais voilà, c'est le... D'ailleurs, le statut de l'Opéra de Paris, qui a été légèrement modifié par la suite, est toujours en vigueur et je crois qu'il fonctionne.
Thank you.
C'est Suzanne Graham qu'on entendit dans cet extrait de Così fan tutte et de Mozart en 1996 à l'Opéra de Paris, côté Garnier, dirigé par Jeffrey Tett, une chanteuse que vous avez fait venir dans ces années-là beaucoup, hein, à Paris, Hugal.
Ah oui, c'était une de mes chanteuses favorites. Elle est toujours d'ailleurs, je crois, je ne sais pas si elle chante encore, mais enfin, elle était admirable dans tous ces rôles-là. Aussi, elle a chanté beaucoup d'opéras français. Et elle était associée donc à cette réouverture du Palais Garnier après près de 2 ans de travaux, comme je les avais réclamés et obtenus, avec ce Così fan tutte, décoré et mis en scène par Ezio Toffoluti, un très remarquable artiste vénitien qui avait situé ça dans la lagune.
Chose très curieuse, surtout aujourd'hui, quand on connaît les relations du politique à l'opéra, vous avez réclamé aussi, Hugal, augmentation de la subvention publique de 3% chaque année. Ça fait rêver aujourd'hui, ça?
Non, je vais demander l'indexation de la subvention sur l'évolution de la masse salariale et des frais fixes. Oui, oui, ça me semblait évident. Et j'ai surtout demandé et obtenu une dotation spécifique pour la reconstitution ou la constitution d'un répertoire. Je m'explique. L'Opéra Bastille avait été inauguré, comme chacun s'en souvient, le 14 juillet 89. J'arrivais quelques années après, mais malheureusement, ou heureusement, que sais-je, les productions, dont certaines étaient excellentes, n'avaient pas été conçues pour être en alternance reprises et exploitées dans ce qu'on peut s'y mettre la mission de service public d'un opéra comme l'Opéra de Paris, le répertoire. Et donc j'ai dû faire le compte des productions dont je pourrais me servir. Elles étaient peu nombreuses. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus naturellement pour le Palais Garnier qui avait été dévolu à la danse. Je voulais, et j'avais obtenu dans mon rapport, que l'on un style de l'opéra à nouveau au Palais Garnier. Bref, j'ai obtenu de quoi reconstituer ou constituer un répertoire pour ces deux maisons. Ça a duré 2 ans. Puis par la suite, on a vécu sur un rythme de croisière qui, je crois, à peu près restait le même par la suite. Voilà, non, j'allais pas venir d'un pays où on ne dit pas que l'argent coulait à flot à Genève, mais enfin, raisonnablement, l'opéra de Genève était doté. Je ne voulais pas arriver dans les problèmes de l'opéra Bastille, qui d'ailleurs n'ont pas été des problèmes financiers, en tout cas pas à cette époque-là. L'opéra Bastille a eu beaucoup de vertus, notamment de recapitaliser l'institution Opéra de Paris. Le projet était gigantesque, on avait pris du retard, on était prêt à lâcher les cordons de la bourse de façon tout à fait déraisonnable même pour rendre la chose possible le 14 juillet 1980, ou le 13 juillet, pardon, la nuit d'avant le jour, comme on a dit à cette époque-là. Bref, non, le problème de l'opéra n'a pas été, je pense pas sérieusement qu'il soit encore de nature financière, en tout cas pas essentiellement, pas de montant, parce qu'après il faut gérer, il faut veiller à ce que les recettes soient là. Aujourd'hui, mes successeurs ont eu beaucoup à faire pour j'ai eu moins de soucis de de faire appel au mécénat. L'association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris existe, elle existait déjà, mais enfin, on était très heureux de recevoir quelques millions, mais on aurait vécu un peu moins bien, mais on aurait vécu sans eux aujourd'hui. Ce que fait Stéphane Lissner, qui est de cet égard-là parfaitement remarquable, les mécènes, les sponsors, tout ça, on ne peut pas boucler les comptes de l'Opéra de Paris, pour autant que j'en ai connaissance comme vous par la presse, sans cet apport d'argent privé. Ce qui est d'ailleurs politiquement tout à fait concevable et peut-être souhaitable. En tout cas, à l'époque, ça n'était pas le cas et j'étais assez content de ne dépendre réellement que du bureau 21 bis de la direction du budget de Bercy. C'était plus facile à convaincre que d'aller faire des speeches plus ou moins talentueux devant des chefs d'entreprise auxquels nous devons évidemment beaucoup.
Hugues, on va refermer cette émission avec Roberto Alagna et un extrait de la Bohème de Puccini. Roberto Alagna, avec qui les rapports ont été, enfin j'ai l'impression, les vôtres, aussi divers qu'enrichissants, comme on raconte. Vous avez eu des propos presque peu amènes sur notre ténor national. Mais vous l'aimez bien quand même, enfin je sais pas.
Oh, mais on ne peut pas ne pas aimer Roberto. D'abord, c'est une voix magnifique, un garçon charmant, gentil. Parfois, oui, bon, on a eu des moments de tension. J'ai eu le bonheur de l'entendre pour la première fois quand il a remplacé presque au pied levé à Monaco, du temps de mon ami John Mordler, une Traviata, où on était absolument... J'étais allé entendre ce ténor mexicain, ou que sais-je, uruguayen, dont m'avait dit Mont et Merveille. Celui que je voulais entendre n'était pas là, j'ai eu Roberto, et c'était un émerveillement. Et puis nous sommes restés dans des rapports à la fois... très chaleureux, amusant, et puis parfois un peu tendu, qui était dû d'ailleurs, non pas tellement à lui, que la politique qu'il avait voulu suivre avec sa compagne de l'époque, Angela Gorgio, au demeurant une bonne chanteuse, pour faire obliger les directeurs de tous les grands théâtres du monde à les engager ensemble, voilà. Et puis, il y a eu des problèmes qui ont surgi à Paris, à Londres, à New York, un peu partout. Et à un moment donné, bon, on s'était dit, on peut très bien vivre sans eux, ce qu'on a fait. Et puis finalement, les choses se sont réparées, et on a vécu avec eux, mais séparément. Et Roberto a chanté beaucoup à l'Opéra de Paris, il y chante encore, je m'en félicite, il a fait le Trouvert de mon temps, et des reprises de Bohème, je crois Carmen, etc. Enfin, il n'était pas pensable d'une certaine façon que le meilleur ténor français de son temps ait été exclu des affiches de l'Opéra de Paris. Mais enfin, à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop.
Andare e venire, quel guardarmi così. Thank you.
Les dernières mesures de la Bohème de Puccini, dirigée en 1995 par James Conlon à l'Opéra de Paris, avec les voix de Leontina Vaduva et Roberto Alagna. Nous étions ce matin avec Maud Nourry, Antoine Courtin et Stéphane Poitevin. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 4e épisode de notre mémoire d'opéra consacré à Hugues Gall. Ce sera sous le titre « Les années Bastille ». Il est midi sur France Musique, vous avez rendez-vous avec Nathalie Moller, une heure pour danser.